de Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Accepteriez-vous d'être jugé par un algorithme ? Les animaux ont-ils tous les mêmes droits ? Comment parle-t-on de la violence sur Internet ? Histoire, sociologie, médecine, droit, informatique, les bibliothèques universitaires et Radio U s'associent pour créer et diffuser une émission bimensuelle de médiation scientifique. Table ronde sciences et société, rencontre histoire de ma thèse ou histoire de ma recherche viendront nourrir le Lab U sur le 101.1 FM. Internet a été perçu comme une technologie propice au développement de pratiques émancipatrices. Il semble aujourd'hui être devenu un redoutable instrument des pouvoirs étatiques et économiques. Pour comprendre pourquoi le projet émancipateur associé à cette technologie a été tenu en échec, les bibliothèques universitaires de l'UBO et Radio U ont invité Félix Treger à présenter son ouvrage « Internet, une utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, 15e-21e siècle » avec Félix Treger, chercheur au CNRS, membre fondateur de la Quadrature du Net, interviewé par Valerne Dior, enseignant-chercheur en droit, directeur adjoint du LabLex, le laboratoire de droit de l'UBO, et par moi-même, Hervé Lemaine, responsable de la mission de médiation scientifique pour les bibliothèques universitaires de l'UBO. Pour entamer notre réflexion, nous interrogeons Félix Treger sur la place d'Internet dans la construction de l'espace public et sur son utilisation au nom du principe de la raison d'État. La parole à Félix Treger.
L'utopie, elle est double. Elle est d'abord celle, l'utopie technicienne, on pourrait dire. Une utopie qui m'a poussé à rejoindre la Quadrature du Net il y a un peu plus de 10 ans, à la fin de mes études. Je finissais des études en sciences politiques et je voulais à l'époque travailler dans les politiques culturelles. Je croyais très fort qu'Internet pouvait aider à démocratiser l'accès aux médias, la liberté d'expression, permettre la floraison de nombreux espaces publics alternatifs. Que c'était un espace d'émancipation, d'échange de savoir, la possibilité de construire une bibliothèque universelle, une force démocratique, pour ainsi dire. Cette utopie-là, en effet, j'en suis passablement revenu, on va longuement en parler. Et la seconde utopie, c'est celle peut-être du jeune juriste que j'étais, et qui croyait que donc la symbolique des droits de l'homme, ces droits proclamés en 1789 dans le contexte français, au sommet de la hiérarchie des normes, qui sont censés régir et incarner, être le socle du contrat social, que ces droits de l'homme-là et l'horizon démocratique qu'ils dessinent étaient suffisants pour nous prévenir de dérives autoritaires, arbitraires de nos États. Et c'est de cette double utopie dont je suis revenu au travers à la fois de mes combats, de l'évolution aussi de la situation en termes de liberté publique sur Internet, puisque la Quadrature du Net, c'est une association dédiée depuis 2008 à la défense des libertés dans l'environnement numérique, et, historiquement avant tout sur Internet. Et j'en suis revenu aussi en raison de ces recherches et de cette histoire que j'ai pu mieux saisir et qui a permis de combler certains angles morts, certains impensés de cette mouvance militante à laquelle je prenais et à laquelle je prends toujours part aujourd'hui.
D'accord, merci.
Je prends le relais. Bonsoir à tous. Bon, je suis très heureux d'être là et je suis très heureux d'avoir lu cet ouvrage. Si je devais le résumer en une rapide phrase, c'est un ouvrage qui décrit le déclin annoncé d'Internet selon une perspective historique qui, de façon assez surprenante, remonte au 15e siècle. Au début, on ne comprend pas trop de quoi il retourne, mais finalement, on comprend qu'il s'agit de montrer que l'utilisation d'Internet, ou en tout cas l'encadrement d'Internet, s'inscrit dans l'instrumentalisation d'un certain nombre d'outils de communication. Et vous incitez dans cet ouvrage sur la manière dont Internet, qui pouvait être un outil perçu comme un outil d'émancipation, de démocratisation de la parole, a pu finalement être instrumentalisé. Et alors, ce qui est très appréciable dans cet ouvrage, c'est qu'on a une approche très française qui est assez peu connue finalement des personnes qui travaillent sur le numérique. On connaît l'évolution du numérique plutôt d'un point de vue anglo-saxon américain. Et puis là, on découvre un certain nombre de personnages, de piliers du développement du numérique en France. France. Et pour rebondir sur la question qui a été abordée tout à l'heure par Hervé, cet ouvrage revient très souvent à la question de la raison d'État. La raison d'État comme moyen de justifier l'encadrement, la censure sur Internet. La raison d'État est au centre de l'ouvrage. Alors, on peut parfois substituer à des notions telles que les intérêts fondamentaux, sécurité, stabilité. Donc concrètement, comment est-ce qu'elle se manifeste, cette raison d'État, dans la sphère Internet? Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner des exemples plus ou moins récents montrant que cette raison d'État est un peu le pivot de cette analyse?
En fait, je reviens au XVe siècle à la fois pour réfléchir à la manière dont, enfin, montrer les similitudes plutôt entre le moyen de communication qui est l'imprimerie, mise au point, perfectionnée par Gutenberg à la fin du XVe siècle, qui, au moins indirectement, va jouer un rôle quand même important dans l'avènement de nombreux mouvements subversifs, politiques ou religieux au cours du XVIe siècle, qui amène une période de tumulte politique qui conduiront à des changements politiques importants et à la cristallisation de l'État moderne sous sa forme moderne. Et c'est dans ce cadre-là, la cristallisation de la forme moderne de l'État, elle est liée à toutes les élaborations doctrinales et les pratiques qui s'articulent autour de la raison d'État, qui est une notion en effet qui fait l'objet de beaucoup d'écrits à l'époque. En droit, si certains d'entre vous qui sont juristes, on entend beaucoup parler de personnages comme Jean Bodin, auteur de traités sur la souveraineté étatique, un personnage comme Giovanni Botero, qui définit la raison d'État en 1589 comme l'État, je cite, est une ferme domination sur les peuples, et la raison d'État est la connaissance des moyens propres à fonder, à conserver et à agrandir une telle domination. Et en fait, l'idée de revenir à la raison d'État, c'est que je crois que au fondement même de la rationalité qui fonde nos formes politiques, il y a cette idée assez froide et assez profondément antidémocratique que la fin première de l'État, en fait, est celle de son propre renforcement, du renforcement de sa puissance, de sa richesse, de sa capacité militaire. Et autour de cette fin première s'articule en effet tout un tas de notions et d'impératifs et de pratiques. Alors celle dont on va peut-être longuement parler autour du contrôle des moyens de communication, la censure, la surveillance des opinions, la propagande, le secret d'État aussi qui dissimule une grande partie des affaires publiques, de la connaissance, vis-à-vis de la connaissance que peuvent en avoir les citoyens. Et la cinquième branche de ce que j'appelle la police de l'espace public médiatique, ce serait la centralisation des moyens de communication, puisque moins il y a d'intermédiaires techniques, alors c'était les imprimeurs libraires, c'était ensuite les opérateurs de réseaux télégraphiques ou de télécoms, aujourd'hui ce sont les grandes plateformes numériques, moins il y a d'intermédiaires et plus les coûts de transactions liés à la censure, la propagande ou la surveillance sont bas. Et pour répondre directement à votre question, l'exemple des pratiques qui relèvent de la raison d'État à l'heure d'Internet, je les explore à la fin du livre au terme de cette longue histoire, c'est à mon sens par exemple les mesures d'exception dont une organisation telle que Wikileaks a pu faire l'objet et fait encore l'objet, hein, le procès de Julian Assange va s'ouvrir dans quelques jours. Ce seraient les formes de censure administrative qui se mettent en œuvre, parfois des censures extra-légales également, ou en tout cas extra-judiciaires, qui se déploient aujourd'hui pour réguler la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. C'est également les formes de surveillance massive qui se sont développées au sein des agences de renseignement pour surveiller les communications et qui rompent en fait avec la promesse du droit libéral, au sens du libéralisme politique et donc des libertés censées fonder le régime démocratique. Et je crois qu'il y a une contradiction entre beaucoup des politiques mises en œuvre ces dernières années par les États et ces principes libéraux démocratiques qui sont censés fonder et légitimer nos régimes politiques.
Il y a un autre fondement du livre, donc il y a la raison d'État, et en face, c'est la notion d'espace public, tel que développé par Habermas, l'idée d'un espace communicationnel où on échange pour fonder des démocraties. Enfin, bon, je vous laisserai en dire plus là-dessus. Et il y a un chapitre, donc page 46, qui s'intitule « Le régime représentatif ou l'antidémocratie ». Donc, le livre fait une analyse du système représentatif, hein, les élus, les députés, etc. On fait la critique et à maintes reprises fait met en avant l'intérêt de l'expression directe qui renvoie à la démocratie athénienne, même, etc. Donc la question que je me pose, là on rentre dans Internet, c'est est-ce que le pseudonymat, l'anonymat sur Internet, qui n'oblige pas à rendre compte de ses propos, il y a aussi les bulles informationnelles générées par le fonctionnement des grandes plateformes, chacun reste un peu dans son monde, est-ce que ce n'est pas des handicaps assez sévères à une expression citoyenne dans un objectif de démocratie. Ouais.
Donc Habermas, en effet, c'était le premier livre que j'ai lu en commençant ces recherches. C'était des recherches de doctorat, puisque c'est le livre adapté de ma thèse que j'ai soutenue il y a un tout petit peu plus de 2 ans à l'EHESS à Paris. Habermas, c'est un ouvrage, en fait lui-même avait fait une thèse donc publiée en 62 qui s'appelle L'archéologie de l'espace public bourgeois, et il montre à travers des travaux historiques très interdisciplinaires comment à partir de la Renaissance se met en place un espace conceptuel en fait, disséminé dans plein de lieux, dans des journaux, dans des salons littéraires et autres, un espace de critique du pouvoir. Où une partie de la noblesse humaniste, de la bourgeoisie éclairée, fait l'usage public de sa raison, hein, ça renvoie aussi beaucoup aux écrits des Lumières du XVIIIe siècle, pour critiquer le pouvoir et jouer un rôle comme ça de régulation de l'action publique à travers cette activité critique. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui participe du processus de démocratisation et qui est extrêmement important. Et donc, moi, je suis parti effectivement de ce concept d'espace public dans son penchant médiatique pour essayer de faire sens un petit peu de cette histoire et du contrôle contemporain d'Internet. Ensuite, en effet, le fait représentatif, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est que c'est en effet parmi les tout premiers chapitres, c'est important de se rappeler à quel point beaucoup des penseurs qu'on nous présente comme les grands penseurs de la liberté, de la tolérance, de la démocratie, en réalité, les Voltaire, les Rousseau, ont en fait, lorsqu'on regarde nombre de leurs écrits, une conception extrêmement appauvrie et limitée de ce que c'est que la liberté et la démocratie, ou en tout cas celle qu'ils conçoivent, elle est avant tout celle des élites. Et en fait, il y a plusieurs partie de leurs écrits qui laissent avoir des conceptions profondément antidémocratiques. Et tout ça, cette pensée qui habite les élites politiques et intellectuelles de l'époque et qui va se traduire en effet dans les fondements du régime représentatif tel qu'il se met en place au cours de la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. Le régime représentatif est pensé contre la démocratie. Et c'est Bernard Manin, dans Les principes du régime représentatif, un ouvrage assez important en sciences politiques, qui le rappelle à quel point l'élection est censée justement permettre la sélection des meilleurs et donc... Et donc, quelque part, accaparer le pouvoir au niveau d'une élite politique qui gouvernera, et tandis que les masses pourront vaquer à leurs occupations. Et puis, ça se retrouve aussi dans les formes très limitées de suffrage qui se mettent en place au moment de la Révolution. Et un suffrage qui exclura d'ailleurs la moitié de l'humanité pendant encore plus d'un siècle et demi. Et j'en viens du coup à la troisième partie de la question sur l'anonymat sur Internet. Est-ce que l'anonymat est un obstacle à une discussion publique digne d'une démocratie? Je le crois pas, bien au contraire, même si c'est en effet une thèse qui a pu être soutenue par certains penseurs, commentateurs, experts du numérique. Moi, il me semble que l'anonymat, au contraire, c'est, et d'ailleurs ça, on le constate à travers les siècles et à travers les travaux d'historiens sur l'usage de l'anonymat, c'est aussi ce qui permet de se libérer des subjectivités, ce qui permet de parler librement, sans crainte de représailles de son milieu professionnel, de son milieu familial, des autorités policières aussi. Et à ce titre, c'est ce qui permet une critique la plus libre possible. C'est ce qui permet aussi parfois de se risquer à un discours dont on n'est pas forcément sûr, mais on fait le pari d'émettre une idée, de la soumettre au débat public, sans avoir à l'assumer à travers son identité civile. Après, l'anonymat, il est toujours très relatif. Il peut quasiment systématiquement être levé. Et donc, c'est pas non plus, peut-être qu'on y reviendra, l'obstacle absolu à la répression de je sais pas, d'appels au meurtre, de discours extrêmement violents qu'on voudrait réprimer. Donc parce que c'est aussi ce qu'on entend beaucoup dans les débats sur cette question, mais peut-être qu'on y reviendra.
Moi, je pensais pas à ça, je pensais à une phrase des années 70, d'où tu parles, camarade.
Oui.
Mais bon, on pourra en y revenir. C'est un élément du livre. Bon. Autre élément important, enfin, on voit bien, le livre est construit sur trois grands. Bon, il y a la raison d'État, l'espace public. Il y a aussi la question du déterminisme technologique et des mythologies de l'informatique. Dans le chapitre 4, donc intitulé « Du contrôle commande à la communication humaine », vous décrivez des visions contradictoires de l'ordinateur et de l'informatique. Un, l'informatique et les ordinateurs sont dans leur histoire perçus alternativement comme des vecteurs de liberté ou d'oppression, selon de créativité ou de déqualification. C'est-à-dire on peut créer ou on peut complètement être déqualifié. Alors la question moi, qui m'intéresse, ouais, c'est sous quelles conditions cette machine polymorphe peut-elle favoriser l'un ou l'autre ?
Waouh, c'est une très grosse question, très grande question. Je ne sais pas si on va pouvoir en faire le tour, et surtout pas dans ma courte réponse. Peut-être, du coup, je vais revenir sur la trajectoire historique de l'informatique parce que c'est important de se rappeler. On dit beaucoup que la technique est neutre, la technologie est neutre. C'est un espèce de truisme. Je trouve qu'on déconstruit de mieux en mieux par les temps qui courent. Mais et dans l'histoire de l'informatique et la manière dont on la raconte, on a beaucoup dit d'abord qu'Internet, l'informatique et Internet étaient le fruit, un produit du complexe militaro-industriel. C'est vrai, évidemment. Ensuite, on a beaucoup dit, notamment, je pense aux écrits de Fred Turner, qui est un historien américain qui, en 2006, a publié From Counterculture to Cyberculture, de la contre-culture à la cyberculture, pour montrer les origines contre-culturelles d'Internet, montrer notamment le rôle d'une partie des hippies, de la contre-culture américaine des années 60, dans l'avènement et dans toute la réflexion autour des potentialités d'une informatique mise au service des individus. Et en fait, les deux sont vrais, en fait. Ces deux lignées historiques qui coexistent de manière très étroite au sein du... En tout cas, au sein et autour du complexe militaro-industriel, l'ordinateur, il naît clairement pendant la Seconde Guerre mondiale dans le giron militaire pour déchiffrer notamment les communications nazies. C'est la célèbre histoire de Turing et de la machine Enigma. Ça sert aussi à faire tous les calculs balistiques qui servent aux armées. Et le premier ordinateur moderne électronique qui adopte l'architecture qui sera celle de tous les ordinateurs depuis, inspiré par le mathématicien von Neumann, sa première utilisation, c'est de faire les calculs, résoudre les équations qui permettront la mise au point de la bombe à hydrogène à la toute fin des années 40. Et au sein des unités du Pentagone en charge de la recherche fondamentale, l'agence ARPA notamment, on a quand même une génération de scientifiques qui, un peu abasourdis par la Seconde Guerre mondiale, par des mouvements de politisation aussi qui traversent les milieux scientifiques depuis près de 20 ans et depuis l'entre-deux-guerres, vont chercher à faire fonctionner cette machine, qui est avant tout une machine de calcul, à des fins de communication humaine, et à dessiner justement le projet d'une informatique qui est plus juste une informatique des grandes organisations, mais une informatique au service des individus. Et c'est ces scientifiques-là qui collaboreront aussi, enfin, plus ou moins directement d'ailleurs, avec cette partie technophile, disons, de la contre-culture, pour faire advenir des machines plus petites, capables de communiquer, enfin de permettre aux hommes et aux femmes de communiquer à distance, d'exprimer leur créativité. Et je ne sais pas si je vais me risquer du coup à répondre là tout de suite.
On voit bien l'histoire, et après il y a les années 70 où la machine devient une machine individuelle, communicante, etc. Mm-hmm. Mais si on parle de déterminisme, tout d'un coup là on voit une machine qui existe sous différentes figures, à vrai dire.
Justement, il n'y a pas de déterminisme. En fait. Elle est fabriquée par différents milieux sociaux qui la font travailler dans un sens différent. Donc, elle est forcément diverse. Elle incarne différents projets politiques, même si on pourrait.
Donc, ça pourrait annuler l'idée de déterminisme, en tout cas d'un point de vue politique, si la machine peut faire les deux choses à la fois
oui, bien sûr.
Servir un service un État fort et surveillant. Mmh. Et un peuple créatif et
absolument.
Communicant. Hein. Ouais. D'accord. Ouais, okay.
Et je crois que d'ailleurs, on retrouve ça effectivement dans les usages contemporains d'Internet. Il y a à la fois des choses formidables, Wikipédia, construire un savoir commun, diffusé à l'échelle planétaire. Il y aurait plein d'autres exemples à citer, évidemment. Je le précise parce qu'on peut penser que j'ai un discours très pessimiste et résigné. sans doute pessimiste, pas forcément résigné. Et par ailleurs, ça sert aussi à faire de la surveillance de masse, à mettre en œuvre des modes de censure algorithmiques automatisés, plutôt que des procédures judiciaires qui étaient pourtant censées
Mais c'est pas intrinsèque à la machine, c'est pas intrinsèque à l'algorithme.
Non, la technologie reflète le monde dans lequel elle est introduite.
D'accord, bien.
Dans toute sa diversité, du coup.
Alors moi, j'ai quand même perçu un peu de résignation et de pessimisme.
Pessimisme, d'accord.
Mais bon, c'est peut-être parce que j'avais déjà des prédispositions. Pour revenir un peu sur peut-être sur l'infrastructure Internet, j'ai appris pas mal de choses. Alors notamment, je fais référence aux pages 200 et suivantes, donc pages 206, 202, 206, sont des pages qui font référence à la construction du militantisme par la voie du réseau. Donc il y a plusieurs exemples qui sont mentionnés, les mouvements sociaux français en 1995, la conférence ministérielle de Seattle en 1999, les forums économiques de Davos, donc des situations dans lesquelles finalement la société civile a pu se mobiliser grâce à Internet et en faire un outil d'expression et de communication. Et l'impression que j'ai lorsque j'avançais vers la fin de l'ouvrage, c'est que finalement la population, la société civile, puis même ceux qui avaient contribué à l'élaboration de toutes ces infrastructures, on avait été progressivement dépossédés. Et l'impression que l'on a à la fin, c'est que finalement on est face à une infrastructure qui est essentiellement une infrastructure privée, qui passe par des espaces qui eux-mêmes échappent à la souveraineté des États. Et c'est peut-être une question pessimiste, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut envisager une évolution positive d'Internet qui tienne compte des intérêts de tous, de toutes ces couches de la population, face à une infrastructure qui est intrinsèquement privée, qui repose sur des contrats d'État passés par un certain nombre d'entreprises de télécommunications. Est-ce que finalement, est-ce qu'on a atteint le point de non-retour ? Le point où finalement on a été dépossédé d'Internet par le secteur privé, où même les États ne pourront jamais se les réapproprier, donc a fortiori la société civile ?
Alors non, parce que on n'est pas dépossédé d'Internet. En fait, il y a encore des groupes qui le font vivre sur un mode vertueux, justement décentralisé, qui permettent de maîtriser ces infrastructures et de les construire sur un mode démocratique. Vous faites référence en effet au premier réseau communautaire, on peut dire, un peu sur le modèle des radios libres, en fait, à la fin des années 70, dès la fin des années 90, même dès le début des années 90, mais encore plus avec l'apparition du Wi-Fi et des communications sans fil qui permettent de construire des réseaux filaires radio à moindre coût. On voit en effet, notamment d'abord à Londres, et puis ça va essaimer assez vite partout en Europe et dans différentes parties du monde, des associations, des groupes militants qui, en mettant quelques antennes sur des toits ou des balcons, vont construire à l'échelle de leur quartier, de leur ville, des réseaux internet locaux qui permettent du coup à une population ancrée dans un territoire de communiquer sur ce réseau local, et un réseau qui est aussi connecté à l'internet mondial et qui donc permet au travers d'infrastructures gérées par des grands opérateurs privés généralement, qui permet donc de se connecter à Internet. Il y a aussi donc dans les expérimentations sur une autre partie de l'infrastructure d'Internet, les serveurs, des alliances entre des groupes militants, notamment effectivement en 1995 en France au moment d'un précédent mouvement contre la réforme des retraites, où quelques informaticiens politisés vont avec des syndicalistes de Sud PTT récupérer des vieux ordinateurs, et alors que le pays est quasiment paralysé, les moyens de communication passablement ralentis, vont mettre en place les premières mailing lists, les premiers comptes mail qui vont permettre de se coordonner, d'organiser la mobilisation. Et toutes ces choses-là vont prendre une échelle bien plus grande à la fin des années 90, en effet, dans le cadre de la mouvance altermondialiste. Et toutes ces expérimentations-là, elles survivent jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'exemple de Framasoft qui permet qui propose de nombreux services décentralisés, basés sur du logiciel libre, gérés donc par cette petite association de militants en qui on peut avoir confiance en matière de respect de la vie privée et de nos libertés de manière générale. Il y aurait plein d'autres exemples. Et sur les réseaux, il y a encore plein d'initiatives similaires aujourd'hui. En Allemagne, il y a un réseau citoyen qui s'appelle Freifunk, très vaste et très utilisé. Giphy.net en Allemagne. Oh. En France, on a une fédération d'associations locales qui s'appelle FFDN.org, la fédération FDN. bibliothèque.org, je crois qu'il y en a une à Rennes aussi, d'association de ce type, qui propose, qui est un fournisseur d'accès associatif, donc qui gère votre connexion à Internet sur un modèle associatif, et donc vous avez votre voix au chapitre au sein de cette association et au travers d'une gouvernance associative. Tout cela existe, et on aurait, s'il y avait la volonté politique, moyen de favoriser en fait ce type d'organisation de l'infrastructure communicationnelle. Malheureusement, ce n'est pas la tendance actuelle. La tendance actuelle, c'est bien une alliance entre ces plateformes numériques, Google, Facebook en particulier, et les États à des fins de réactivation, justement, de modes de régulation, censure, surveillance, profondément attentatoire aux libertés, dans un contexte où Internet s'était longtemps donné à penser, comme un réseau de communication incontrôlable. On peut avoir en tête de nombreuses réflexions d'hommes politiques parlant d'Internet comme une zone de non-droit, un endroit où le droit n'a pas à s'appliquer. Ça renvoie aussi à certaines utopies militantes professées dès les années 90, où notamment je pense à John Perry Barlow, parolier du groupe de rock Grateful Dead, qui est mort il y a 2 ans. Qui est vraiment un des pionniers des premiers réseaux informatiques et un des premiers apôtres aussi des potentialités d'Internet, qui en 1996 publie la Déclaration d'indépendance du cyberespace, où il explique en gros, État et géant du vieux monde industriel, vous n'avez pas le droit de citer sur cet espace émancipé de votre tutelle que nous sommes en train de construire. Et donc ce projet d'un Internet hors du droit était quelque part aussi revendiqué par les militants. Mais tout ça pour dire que ce projet est en passe d'être passablement relégué aux poubelles de l'histoire, et que ce qui se trame aujourd'hui, c'est bien une alliance entre ces gestionnaires d'infrastructures communicationnelles qui ont mis en place des modes de gouvernement de nos communications extrêmement sophistiqués et efficaces pour nous vendre de la publicité ciblée. C'est bien la cooptation de leurs infrastructures et de leur savoir-faire par les États pour remettre en selle leur politique de censure ou de surveillance ou de propagande.
Merci à Félix Tréguer, chercheur au CNRS, membre fondateur de la Quadrature du Net, et à Valerne Dior, enseignant-chercheur en droit, directeur adjoint du LabLex, le laboratoire de droit de l'UBU. Nous les retrouverons dans le prochain numéro pour aborder la question de la surveillance du réseau et des luttes contre cette surveillance. Suite donc au prochain numéro du LabU. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.